France Inter. Mathilde Munoz. Le 5-7.
Il est 6h20. Le meurtrier de Sarah Limi ne sera pas jugé. Il est aujourd'hui en hôpital psychiatrique et a été déclaré irresponsable pénalement par la Cour de cassation. Les experts ont conclu que son discernement était altéré au moment du crime. Il souffrait de bouffées délirantes, probablement provoquées ou aggravées par sa forte consommation de cannabis. Et cette affaire nous amène à nous interroger, faut-il juger les fous? Des sénateurs appellent à revoir la question de l'irresponsabilité pénale. C'est la question que vous posez, vous aussi, dans une tribune publiée par l'Obs. Bonjour Laure Hennick.
Bonjour.
Vous êtes avocate, ancienne première secrétaire de la conférence du barreau de Paris. Vous venez de publier donc une tribune et je vous pose la question, faut-il juger les fous?
Mais cette réponse, en fait, c'est une question, mais c'est une réponse qui vient d'emblée et qui vient d'emblée depuis des années, enfin de tout temps, on ne juge pas les fous. À Rome, déjà, on ne jugeait pas les fous. Et la seule période de l'histoire où on a jugé les fous, c'est le Moyen-Âge. Vous voyez, et quand on dit cette phrase, quand on dit c'est le Moyen-Âge, quand on connaît cette expression, la signification de cette expression, on sait bien qu'on ne veut pas y revenir. Enfin, c'est la barbarie de juger les fous. Alors aujourd'hui, on a une décision de la Cour suprême chez nous, qui est une décision courageuse parce que aujourd'hui c'est un peu le règne quand même des victimes. Or un jugement ce n'est pas satisfaire les victimes. Et faut se figurer ce que ce serait hein, de juger des fous. Faut se figurer un fou dans un box qui devrait répondre et donc qui n'est pas en mesure de répondre. Et est-ce que véritablement c'est ce qu'on voudrait en France et est-ce que véritablement c'est ce que voudraient des parties civiles?
Mais déjà c'est quoi un fou? À partir de quand est-on considéré comme fou?
Alors justement, c'est une question médicale, c'est une question qui est répondue par des experts. Et là, dans cette affaire-là, mais comme dans toutes les affaires, il y a des experts et des collèges d'experts, c'est-à-dire pas un seul expert, mais deux experts ensemble. Et quand les experts viennent dire qu'au moment du passage à l'acte, la personne n'avait pas toute sa conscience, n'avait pas tout son discernement. Alors ici, en l'espèce, il s'agissait de bouffées délirantes, c'est ce qui nous a été dit par deux experts, puis encore ensuite par deux experts, parce que on a demandé ce qu'on appelle une contre-expertise, cela a été confirmé une fois, une deuxième fois, et puis encore une troisième fois, la personne n'est pas jugée. C'est au moment du passage à l'acte, il faut savoir ce qu'on fait. Le droit repose sur l'idée qu'on est responsable si on a eu un discernement et si on a eu une volonté. Et si ce discernement n'était pas présent, donc a été aboli. Nous avons un article qui est assez célèbre, qui est l'article 122.1 du Code pénal, qui dit que la personne ne peut pas être pénalement responsable. Et si elle était un peu responsable à ce moment-là et que le discernement était altéré, qu'elle savait un peu ce qu'elle faisait, à ce moment-là, elle est responsable, mais la peine doit être réduite d'un tiers. Mais c'est extrêmement rare que les experts disent que la personne n'est pas responsable. Donc on peut imaginer qu'effectivement, en l'espèce, elle ne l'était pas. Mais ça ne veut rien dire à l'endroit des victimes.
Il y a quand même un point que souligne et que mettent en avant notamment l'avocate des proches de Sarah Halimi, qui est une spécificité de cette affaire, c'est que visiblement, si c'est bien la consommation de cannabis qui a entraîné l'abolition de son discernement, c'est ce que dit l'avocate, c'est que l'auteur s'est volontairement mis dans cette situation. C'est lui qui a fumé.
En fait, la loi ne demande pas les causes.
D'accord.
La loi ne demande pas pour quelle cause la personne a eu son discernement qui a été aboli ou entravé. Et puis, vous savez, en fait, le droit est tout à fait protecteur. C'est-à-dire que quand les parties civiles veulent qu'il y ait absolument une audience, depuis 2008 et la loi de Rachida Dati, à ce moment-là, il y a quand même une audience qui ne statue pas sur la responsabilité, puisqu'il est irresponsable, mais qui peut donner des dommages intérêts et surtout qui peut donner des mesures de sûreté. C'est-à-dire que pendant 20 ans, la personne va être interdite de toute façon de rentrer en contact avec les parties civiles et puis surtout va être placée d'office en hospitalisation d'office. Donc si vous voulez, ces mesures de sûreté, elles existent. Enfin, l'hôpital, c'est pas l'hôtel, quoi.
Mais cette mesure de sûreté ou les compensations financières, visiblement, ça ne suffit pas aux victimes. C'est ce qu'on a entendu lors de ce procès notamment.
Mais le procès ne suffirait pas non plus. Alors, le procès ne suffirait pas non plus.
Pourquoi?
Parce que si vous voulez, c'est pas simplement. Mais ce qui est prononcé prononcées, lorsque ces mesures de sûreté sont prononcées, elles sont prononcées lors d'un procès, qui est un procès en présence des parties civiles, si elles le demandent, devant la chambre de l'instruction, c'est-à-dire la cour d'appel, en l'occurrence ça aurait été la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, donc qui statue en audience publique où les parties civiles sont présentes et font face à l'agresseur. Et cet agresseur-là peut être reconnu. D'ailleurs, la chambre de l'instruction pourrait dire « Non, en fait, nous, on ne se plie pas et on demande à ce que cette personne soit tout à fait jugée en intégralité. » Mais sinon, s'il décide que la personne est irresponsable, il décide aussi qu'il y avait des charges, il prononce le fait qu'il y avait des charges, c'est-à-dire une forme de culpabilité, et il prononce les mesures de sûreté. Donc, c'est comme un procès où on ne peut pas mettre quelqu'un en prison, c'est vrai, mais on peut l'interner d'office. Mm-hmm. C'est quand même une vraie sanction, et c'est quand même le vrai spectacle d'un procès. Mais encore, il faut se figurer que ça devient une justice spectacle, parce que quand quelqu'un est fou, en fait, il ne peut pas répondre. Alors, je ne connais pas le cas précis là, dans l'affaire de Mme Halimi, mais quand quelqu'un est fou, il ne peut pas répondre.
Il ne pourrait pas concourir à la vérité lors d'un procès, ce n'est pas possible.
Ben non, un procès, c'est concourir à la manifestation de la vérité. Mmh. Alors, non seulement il ne peut pas y concourir, mais en plus, ça va à l'encontre de toutes nos valeurs, c'est-à-dire à l'encontre de la dignité, et le procès doit être équitable, en fait.
Et est-ce qu'un procès peut avoir une fonction thérapeutique? Il y a certains qui le disent. Vous partagez cet avis? Non, j'imagine.
Tant mieux s'il l'a. Je veux dire, je vais évidemment pas militer contre, mais le procès, c'est pas le lieu de la catharsis. Enfin, il faut aussi que les gens arrêtent d'expliquer aux victimes qu'on ira mieux après le procès parce qu'on y entendra des choses qui vont nous aider à finalement aller mieux. Alors, c'est une pierre dans le processus, mais en fait, on peut pas toujours la voir quand il y a eu un acte fou qui a été commis. S'il a été commis par quelqu'un de dément, il ne peut pas réparer lui-même. Mais la société répare. Et la société indemnise. Il y a aussi des fonds d'indemnisation qui prennent en charge si la personne qui a commis cet acte n'est pas en état de pouvoir le réparer. Donc il y a tout un tas de mesures démocratiques qui sont mises en place. Aux États-Unis, si vous voulez, on juge les fous et on les exécute même. On juge les mineurs et on les exécute même. Ici, nous avons justement des garde-fous, quoi. Et la Cour de cassation vient de le dire.
C'est bien que vous parliez des États-Unis parce que justement, j'allais vous demander si la France était à part dans le monde ou si c'était plutôt les États-Unis qui l'étaient.
Mais là où la France est à part dans le monde, c'est qu'elle fait une place immense à la partie civile et immense à la victime. Alors qu'aux États-Unis, si vous voulez, et alors c'est paradoxal puisqu'ils exécutent les fous, mais la partie civile n'a pas de place au procès. Pas de place au procès pénal. Elle ne peut rien dire. À peine peut-elle y assister. Elle pourrait être là sur le banc, pas sur le banc de l'audience, mais sur le banc du public. Alors qu'en France, on peut venir déposer, on peut venir parler. On n'a juste pas le droit de demander une peine parce que ça regarde juste la société et donc le procureur de la République ou l'avocat général. Donc, si vous voulez, la France fait déjà une part immense et tant mieux. Moi, je souhaiterais effectivement que la France continue d'entendre les victimes dans le procès pénal. Mais sinon, dans le monde entier en général, on ne juge pas les fous. Donc c'est vraiment un principe antique, j'ai envie de vous dire.
Merci, Laure Hennick, avocate, ancienne première secrétaire de la Conférence du Barreau de Paris. Vous étiez l'invitée du 5-7. France Inter.